L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur, nous dit Jésus. Le cœur. Jamais un organe n'a eu autant de symbolique, alors que sa fonction est plutôt pragmatique. Celle d'une pompe, même si cette pompe est plus que vitale. Le cœur n'est pas seulement cet instrument servant à envoyer du sang dans le corps. Le cœur, métaphoriquement ou symboliquement, désigne plusieurs choses. Il est le lieu des sentiments, l'amour du prochain, la compassion, la charité. Il est aussi le siège des sensations, peur, coup de cœur, angoisse. Le stress positif ou négatif, la peur ou le coup de foudre, par exemple, peuvent augmenter sensiblement le rythme cardiaque et ainsi donner l'impression que le cœur est bien ce lieu d'émotions vives. Il désigne aussi le centre, on dit le cœur du problème, au cœur de la nuit. Le sens du mot cœur est riche et varié et joue un rôle important dans notre monde contemporain pour exprimer le plus souvent des choses positives. En caricaturant un peu, derrière cette symbolique du cœur, il y a ce message véhiculé que ce qui vient de cœur ne peut pas être mauvais, ni être une illusion ou un mensonge. Évidemment, je pousse ici le trait à l'extrême, mais il y a bien cette idée que le cœur est forcément vrai et pur. La parole du cœur est alors, au minimum, une parole de vérité subjective, une parole intouchable et inattaquable. Et c'est peut-être là une difficulté. La personne qui s'exprime avec son cœur s'exprime avec une intériorité qu'il est difficile et malvenu de remettre en question. Un argument émotionnel venant du cœur peut parfois servir à bloquer tout débat rationnel, comme si le cœur avait plus d'importance que la raison. Tout le monde connaît cette citation « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». Le cœur est pur et juste. Il ne peut avoir que raison, même parfois contre la raison elle-même. Et par conséquent, la perversion et le mal ne peuvent pas venir du cœur. Le mal peut bien venir évidemment de l'absence de cœur ou d'un cœur endurci, mais du cœur lui-même, rien de mauvais ne peut sortir. Le cœur est vérité, pur, limpide, clair, sans hypocrisie. Voici quelques exemples de citations que nous pouvons retrouver facilement dans l'air du temps. Il faut apprendre à écouter son cœur. Il sait nous guider sur la voie de la vérité et de l'amour. Où l'esprit cherche, mais c'est le cœur qui trouve. Et je terminerai par cette citation qui m'interpelle. La seule façon d'avoir ce que tu veux est de savoir ce que tu veux. La seule façon de savoir ce que tu veux est de te connaître. La seule façon de te connaître est d'être toi-même, et la seule façon d'être toi-même est d'écouter ton cœur. Voilà en résumé et en caricaturant un peu une forme de pensée postmoderne accordant une place prépondérante à la subjectivité du cœur. Je l'appellerai pour ce matin la toute-puissance du cœur, car le cœur ne peut pas se tromper. Il est le concept unifiant l'être humain et la vérité. Quelle magnifique vision de la vie, celle de ce cœur tout-puissant. Malheureusement, j'y vois plusieurs dangers. Tout d'abord, le risque d'un fort relativisme. Il n'y a pas de vérité ni de discussion possible, puisque chaque cœur a forcément raison. Le risque d'un fondamentalisme. Mon cœur a forcément raison, envers et contre tout. Un individualisme exacerbé. C'est mon cœur, la parole de ce cœur que je dois écouter, et si ce cœur n'est pas entièrement tourné vers l'autre, alors il devient vite un cœur seul et égoïste qui ne s'écoute que lui. J'en arrive maintenant à la critique de ce cœur tout-puissant, avec cette question essentielle. Si le cœur est bon et pur, où se situe alors le mal et la perversion? Je vais vous proposer trois pistes qui, comme vous le verrez, conduisent à une forme d'impasse. Le mal est souvent alors compris comme l'extérieur, puissance externe, où l'exemple parfait est alors la figure nommée du malin. Le mal peut aussi alors venir non de l'extérieur, mais de l'intérieur, plus précisément du corps, qui est alors vu comme l'impur, le périssable, ce qui sépare l'homme de l'âme et empêche celle-ci de s'accomplir pleinement. Ici, nous sommes dans une conception influencée à la fois par la gnose, c'est-à-dire la philosophie selon laquelle il est possible de connaître les choses du divin, et la tradition néo-platonicienne, avec une séparation forte entre l'âme et le corps, entre le spirituel et le matériel. Le mal peut venir alors de la rationalité, de la réflexion ou de la volonté de l'intelligence. L'anthropologique biblique, influencée à la fois par le Premier Testament et les paroles de Jésus, ne défend pas une telle fonction symbolique. Au contraire, souvent le cœur dans la Bible n'est pas pur. Il est même parfois le lieu de nos manquements. Mais si le mal est dans le cœur de l'homme, ce n'est pas le corps qui est mauvais. Il n'y a pas ainsi de dichotomie, c'est-à-dire de séparation complète entre le corps et l'âme, mais une relation complexe entre le corps et le cœur. Le corps n'est ni pur ni impur, mais influencé par l'état du cœur, comme le dit le livre des Proverbes. Un cœur paisible est vie pour le corps. Cela ouvre vraiment une réflexion holistique, c'est-à-dire qui intègre à la fois la psyché, l'esprit, l'âme, le cœur et le soma, c'est-à-dire le corps comme enveloppe charnelle. Cela veut dire aussi que certaines maladies s'incrustent à la fois dans le corps et dans le cœur humain. Une piste intéressante pour relire les récits de miracles sous ce registre psychosomatique, celle d'un langage de Jésus guérissant le cœur et le corps humain. Et enfin, mais c'est peut-être déjà là un point de vue plus protestant influencé par Luther, le péché habite bien dans l'homme, dans son intériorité, dans son cœur même. Le péché n'est pas extérieur à l'homme, mais il est incrusté dans le cœur humain et devient ainsi ce qui coupe et éloigne l'homme de Dieu. Faut-il alors jeter notre cœur au feu ? Non, ce n'est pas à cela que le message chrétien invite. Car si le cœur peut être la source du mal, nous sommes invités par Dieu à le purifier. Car le cœur est le lieu de la foi, comme le dit l'apôtre Paul, à croire dans son cœur et à confesser par sa bouche le Jésus-Christ. Notre cœur, votre cœur, mon cœur, est pris dans cette tension, entre le pur et l'impur, entre le péché et la grâce, entre le bien et le mal. Il peut nous inciter à la cupidité, à la vanité, à la déraison, aux intentions mauvaises, comme il peut nous ouvrir à la compassion, à l'amour, au pardon et à la foi. Alors c'est à nous de garder notre cœur avec vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie. Enfin, pour terminer, je voudrais vous partager cette petite histoire découverte dans un livre d'enfants. Un étranger arrive à la porte d'une ville où est assis un mendiant. Avant d'entrer, il demande au mendiant « Comment sont les gens dans cette ville ?» Le mendiant lui réplique « Et chez toi, comment les gens étaient-ils ?»« Oh, ils étaient méchants, stupides et égoïstes. » »« Alors tu trouveras ici les mêmes ?» lui répond le mendiant. Un second étranger arrive et pose la même question au mendiant. Alors, à lui aussi, il réplique « Et chez toi, les gens, comment étaient-ils ?»« Oh, ils étaient bons, généreux et accueillants. » « Alors, tu trouveras les mêmes ici, » lui répond le mendiant. Un enfant qui a tout entendu dit au mendiant « Tu as menti, tu as répondu à l'un une chose et à l'autre le contraire. »« Pas du tout, je n'ai pas menti, » répond le mendiant, « mais c'est le regard que nous portons sur les autres qui détermine leur comportement. Les gens agissent avec nous comme nous agissons avec eux. » Seigneur, viens déposer dans notre cœur ton regard. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique libre de nos chaînes, le 52-17.